L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Voilà, c'est la deuxième partie de cette heure de pointe en ce début du mois de mars. Nous recevons cette semaine Clément Venco qui est archéologue. Bonjour à vous Clément Venco.
Bonjour.
Vous êtes membre du laboratoire Traces, Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés. C'est un laboratoire qui dépend de l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès. Vous préparez une thèse qui a pour titre « Le territoire de la cité des Convennes », c'est dans le Haut-Comminges, « De la protohistoire aux alentours de l'an 1000, dynamique territoriale et peuplement dans un espace de Piémont sur la longue durée ». Alors dit comme ça, ça fait presque un petit peu peur. On se dit peut-être que l'archéologie, c'est une espèce de niche réservée à quelques spécialistes. Puis en fait, quand on prend le temps, la peine peut-être d'aller chercher un petit peu plus loin sur Internet, on se rend compte que votre métier est une discipline qui est mêlée à l'histoire, mêlée à la culture, mêlée à la géographie, mêlée aussi à l'écologie. Vous allez nous dire tout ça, vous allez nous expliquer en fait quel est votre métier d'archéologue ici chez nous, dans notre région et dans les territoires ruraux en particulier. En amont de cette émission, vous nous avez dit qu'il y avait l'archéologie préventive, l'archéologie programmée. Alors vous allez nous expliquer tout ça dès le début. Qu'est-ce que c'est que l'archéologie, Clément Venco?
Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre comme ça à une question aussi vertigineuse, mais c'est vrai qu'en préambule de l'émission, on avait évoqué l'organisation de l'archéologie en France, qui est très mal connue. Et donc, c'est juste pour préciser un petit peu rapidement, il y a deux grands champs d'application de l'archéologie. Vous avez l'archéologie préventive, c'est-à-dire l'archéologie qui va intervenir en amont des travaux d'aménagement, des aménagements de ZAC ou de tracés de linéaires, les lignes TGV, les autoroutes, pour faire simple, ou les grands projets. Et puis vous avez une archéologie de recherche, plus directement, une archéologie universitaire, qui est faite par des universitaires, mais pas que, et qui, elle, va être peut-être l'archéologie qui est la mieux connue et qui est la plus ancienne, effectivement, qui va concerner les grands sites archéologiques qu'on peut voir ça et là. De ces deux organisations-là de l'archéologie découle un constat qui est commun, c'est qu'il y a une grande partie du territoire en France qui est peu ou pas concernée par les recherches archéologiques. Le préventif, pour des raisons qu'on peut comprendre, se concentre essentiellement autour des grandes agglomérations ou dans les grandes plaines, pour faire simple, qui relient ces grandes agglomérations. Pas uniquement, mais en grande partie. Et la recherche universitaire va avoir tendance, pour des questions qui se comprennent aussi, à essayer de travailler plutôt sur des sites d'ampleur nationale ou régionale qui vont, pour faire simple, délaisser ce qu'on peut appeler les territoires ruraux, alors qu'il n'y a pas forcément grand sens à l'échelle nationale, mais qu'on peut qualifier par des zones qui sont un petit peu éloignées de ces grands centres universitaires ou économiques. Et du coup, qui vont avoir une carence à la fois de chercheurs, à la fois de recherche, à la fois de connaissances. Et donc, c'est dans ce cadre-là que moi, j'interviens du point de vue scientifique et du point de vue professionnel, c'est-à-dire d'essayer de voir quelle peut être une archéologie de ces territoires-là au regard de la structuration de l'archéologie en France.
C'est pas parce qu'il n'y a pas de recherche archéologique sur ces territoires plus ruraux qu'il n'y a rien à y trouver, en fait.
Ça, c'est l'élément le plus important en discutant avec les maires notamment. Il y en a certains qui nous disent « mais nous, on n'a pas de patrimoine ». Ça n'existe pas. Toutes les communes ont des vestiges archéologiques. Soit ils sont connus, soit ils sont méconnus ou mal compris, soit ils sont inconnus au sens où ils sont enfouis et où ils n'ont pas encore été identifiés. Mais l'organisation des réseaux de peuplement qu'on a de nos jours est totalement différente de ce qui existait dans les périodes anciennes. Et il y a évidemment un maillage extrêmement important de populations sur l'ensemble du territoire et sur toutes les périodes les plus anciennes. Donc toutes les communes ont du patrimoine qui est méconnu, mais du patrimoine qui existe et qui mérite d'être étudié.
Gérard Crozat.
Oui, une question préalable peut-être, mais qui peut intéresser nos jeunes auditeurs. Quelle est votre formation? Comment vous avez fait vos études?
La question, c'est comment est-ce qu'on devient... C'est ça. Ouais. Bon, il y a une formation, il y a... Alors, juste une précision, ce qu'il faut savoir, c'est que l'archéologie, c'est une discipline jeune hein, dans la constitution des disciplines universitaires. C'est une discipline jeune. Pour faire simple, avant les années 50-60, il n'y a pas d'archéologie en tant que discipline dans les universités. On commence à enseigner l'archéologie dans les années 70. Et c'est une discipline, en gros, qui se structure plutôt vers la fin du XXe siècle, les années 70, 80, 90.
Mais il y avait quand même... L'archéologie était pratiquée, mais il n'y avait pas de formation, c'est ça que vous nous dites.
Il n'y a pas de formation, et y compris, il n'y a pas forcément de chaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de maître de conférence en archéologie, ça arrive tout doucement à partir des années 60. Avant, c'est une section de l'histoire. Il y a des grands ouvrages un peu anciens. Les archéologues, c'était les... En gros, c'était les historiens de la Terre, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont les mains dans la Terre. Puis, y compris, il y avait une vision un petit peu, on va dire, c'est les ouvriers, on va dire. Mmh. Hein. Mais donc, ça, c'est le premier point, c'est que c'est une discipline qui est jeune. Et le corollaire à ça, c'est que même l'archéologie préventive, c'est très jeune. La structuration de l'archéologie préventive en France, c'est les années 2000, notamment la création de l'INRAP. Encore une fois, on est...
L'INRAP ?
L'Institut national de l'archéologie préventive, mais quelque chose de très jeune. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc il y a évidemment des cursus qui sont mis en place hein, à partir des années 80. Donc vous pouvez faire aujourd'hui une licence, un master et un doctorat en histoire de l'art et archéologie. Par ce biais-là, ça va vous permettre d'avoir une formation en archéologie. Pas nécessairement une formation au métier d'archéologue. Ça, c'est encore autre chose. Parce que, comme toute discipline jeune, ou même dans les sciences humaines, il n'y a pas forcément de corrélation entre la formation universitaire et la formation professionnalisante.
C'est-à-dire qu'il y a ceux qui cherchent, qui font les fouilles, et puis il y a ceux qui analysent ce que ça veut dire de notre histoire, de notre culture, de nos paysages.
Disons que ce ne sont pas des BTS. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que la formation d'archéologue, elle reste dans les sciences humaines, dans les universités. Donc quand vous avez votre thèse, eh bien, vous n'avez pas de métier derrière. Vous avez plusieurs choix. Soit vous tentez les concours de l'université ou du CNRS, qui sont de moins en moins nombreux, avec de moins en moins de postes. Soit vous allez dans le préventif, mais le préventif, une thèse d'archéologie ne vous ouvre pas les portes du préventif, parce que vous pouvez faire des thèses d'archéologie sans avoir une solide expérience de terrain. Or, en préventif, on cherche des chefs de chantier. Mais une thèse ne vous apprend pas à être chef de chantier. Voilà. Donc du coup, effectivement, c'est là aussi qu'il y a quelques soucis. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, il y a aujourd'hui des cursus en archéologie. Et moi, le conseil que je donnerais à des jeunes qui sont intéressés pour faire de l'archéologie, c'est d'une part de faire le cursus, mais surtout, très tôt, dès la fin du lycée, d'aller faire des chantiers de fouilles. Parce que vous savez que les chantiers de fouilles sont ouverts aux bénévoles, plutôt à ceux qui font des cursus en archéologie, mais ce sont des métiers pratiques qui s'en prennent quand même avant tout sur le terrain.
Alors justement, concrètement, les fouilles, qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Est-ce que vous savez quel matériaux vous allez trouver ? Il y a des matériaux qui ont duré dans le temps et puis d'autres qui ne sont pas là parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé, mais qui ont peut-être disparu. Est-ce que vous savez ce que vous cherchez quand vous fouillez ?
Alors oui, ça c'est une question qu'on nous pose souvent. Moi j'ai toujours cette image-là. Un archéologue, c'est pas un prospecteur dans des champs de pétrole dans le Grand Ouest. Il met pas un bandeau sur les yeux, il jette pas sa pioche et il creuse pas là où la pioche tombe. On est d'accord. Un chantier archéologique, c'est une organisation, c'est des financements, c'est un chantier. Donc évidemment, pour déposer un dossier de fouille, vous supposez très fortement qu'il y a un site. Vous savez pas forcément ce que c'est, vous savez pas forcément le dater. C'est l'objet de la recherche est là. Mais vous savez, d'une certaine manière, qu'il y a un site. Ça, c'est le premier point. Dans le cadre de la recherche universitaire ou de la recherche programmée, donc pas dans le cadre du préventif, en général, le chercheur, quel que soit son statut, a des problématiques. Donc il y a des chercheurs qui sont spécialistes de certaines périodes ou de certaines thématiques, et puis il y a des chercheurs un peu plus généralistes. C'est un peu comme en médecine, si vous voulez. Il y a les médecins généralistes, puis il y a les spécialistes. Hein. C'est pour ça que vous avez, dans la présentation, moi par exemple, je travaille sur des questions, ce qu'on appelle dans la diachronie, c'est-à-dire sur le temps très long et sur des questions de dynamique de peuplement. Alors c'est très avantageux parce qu'on gagne à la fois au grattage et au tirage d'une certaine manière, parce que quel que soit le type de site et quelle que soit la chronologie, ça rentre dans vos thématiques de recherche. Donc l'idée, elle est là, c'est vous choisissez vos sites d'abord. Parce qu'elle rentre dans un programme de recherche. Ça me permet de faire juste un petit point très important. L'archéologie en France, c'est une chance, c'est une contrainte, mais c'est une chance. Elle est soumise à une autorisation, et notamment l'archéologue, quand il fait des fouilles, il est couvert ou sous le coup d'une autorisation préfectorale. Ça, c'est très important parce qu'elles sont soumises, elles sont délivrées par la DRAC, et elles ne sont réservées qu'effectivement par des gens qui sont reconnus par leur pair. Pour faire simple, qui ne dépendent pas forcément du niveau universitaire.
Donc même si une commune, par exemple un petit village qui suppose qu'il y a un site intéressant, pertinent pour comprendre l'histoire du village, ou parce que tout simplement des travaux sont envisagés et qu'avant avant de les faire, avant de les mener, bah, ils veulent s'assurer qu'ils ne passent pas à côté d'un site peut-être remarquable, ils vous font appel, mais vous n'êtes pas un électron libre.
Alors non, surtout pas, y compris parce que, je vous ai dit, c'est extrêmement encadré. Le cas que vous évoquez rentre dans le souci qu'on a évoqué un petit peu avant, c'est-à-dire le problème de ces territoires ruraux qui sont un petit peu en marge des grandes agglomérations. Le cas d'une commune qui a, mettons, une église ou une chapelle en ruine, par exemple, dans la forêt, comme ça ouais. peut exister, qui veut s'en enquérir, déjà la stabiliser, faire qu'elle ne se détruise pas plus, et puis éventuellement connaître l'histoire de cet édifice, parce que une église en ruine, elle peut être moderne, elle peut être médiévale, elle peut être due au Moyen-Âge, elle peut avoir duré 2 siècles ou 10, bref, il y a toute une histoire autour, elle peut être seule, elle peut avoir fonctionné avec un autre habitat, ouais. Ça, la commune, d'une certaine manière, va être relativement démunie face à ce problème-là, parce que même si elle a la volonté de se saisir à bras le corps de ce patrimoine pour l'étudier et pour le valoriser, les réglementations vont faire qu'elle va être obligée, d'une certaine manière, d'être en attente d'un archéologue. Le problème étant que, comme on n'est pas dans des projets d'aménagement où il y a une destruction, on n'en rentre pas dans le cadre du préventif. Très souvent, ces travaux-là ne rentrent pas dans le préventif, y compris ils sont trop petits, parce qu'aujourd'hui, les prescriptions sont sur des zones qui sont beaucoup plus importantes, en fait. Même aujourd'hui, des petits lotissements où il y a des édifices, où il y a des structures, ne sont pas forcément prescrits, faute de moyens aussi. Et sinon, il faut attendre un universitaire, un peu comme le Messie, d'une certaine manière, qui vienne, qui descende sur le site et qui vienne jeter son dévolu sur ce site-là. Mais chose qui n'arrive que très rarement, parce que... les universitaires n'ont pas le temps, et puis c'est un site, un petit site, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le petit patrimoine, le terme est très mauvais. Hein. Mais voilà, donc du coup, effectivement, il y a une carence un petit peu de ce côté-là. Et c'est moi, dans ce cadre-là, que j'interviens, alors en étant à la fois rattaché à l'université, moi je dis que j'interviens parce que c'est un peu particulier, c'est-à-dire que moi j'habite donc à Saint-Laurent-d'Aunest, donc à l'extrémité est des Hautes-Pyrénées. J'ai une famille, j'ai 3 enfants, ma femme est agricultrice, donc je n'ai pas ni la volonté ni la possibilité de bouger, comme le font tous les archéologues, d'aller par Mont et par Vaud et d'être surtout 6 mois par an en dehors de la maison. Donc du coup, j'ai fait le truc en sens inverse, c'est-à-dire dans le cadre de mes recherches, j'ai voulu travailler sur ce territoire, dans le cadre de la thèse, et puis à un moment, il faut manger. Donc j'ai eu des propositions dans le préventif, mais que j'ai refusées, pour essayer de développer une archéologie avec les communes, ou avec les collectivités territoriales locales, pour voir si on ne pouvait pas pallier justement à la fois à ces demandes des communes, tout en travaillant scientifiquement sur des territoires qui sont peu exploités.
Ça, donc en fait, d'une nécessité, vous avez retiré une passion aujourd'hui ?
Oui, c'est ça, et puis c'est surtout les capacités à la fois de répondre à une demande qui est très forte en fait. Et moi, la chose qui m'a surpris le plus, quand j'ai commencé à faire ça, c'est un maire un jour qui m'a contacté parce qu'on se connaît. Il m'a dit, mais tiens, moi je voudrais travailler sur une chapelle, mais on ne sait pas quoi faire. Et je lui ai dit, bah, plutôt que de faire juste de la maçonnerie, moi, je te propose qu'on fasse une fouille avec. Ah bon, et en fait, c'est parti de là. Et puis, les équipes municipales ont commencé à s'intéresser à l'histoire du village. Donc du coup, on a commencé, en même temps qu'on préparait le projet de fouille sur l'église, Eh bien, on a fait aussi avec une dizaine de personnes du village des prospections sur le territoire de la commune. Parce que moi, je leur ai dit, je connais d'autres sites. Ça permet aussi de faire un point sur l'histoire, sur le temps long de la commune. Et puis, à la deuxième visite en forêt sur un site, il y avait les deux maires voisins qui étaient là. Et puis, on a commencé à discuter. Et puis, les deux maires voisins m'ont dit, ah oui, mais moi aussi, j'ai des murs dans la forêt ou j'ai des choses là. Et donc, de fil en aiguille, on a commencé à créer un réseau, en fait. Donc là, on parle de la zone. Moi, je travaille aujourd'hui actuellement sur un triangle, pour faire simple, entre Saint-Béat, Saint-Gaudens et Lannemezan. Donc, on est à cheval sur la Haute-Garonne et la Haute-Pyrénées. C'est autour de Saint-Bertrand-de-Comminges, pour faire simple.
Donc là, entre la montagne et le Piémont, donc ça, c'est un intérêt aussi pour vous, ce qui s'est passé entre la montagne, voire la haute montagne, et puis le Piémont.
Alors après, il y a tout un tas de problématiques de recherche, si on parle vraiment strictement sur ça. Il y a le problème de la longue durée, il y a le problème de, effectivement, des différents espaces géographiques de cette articulation, de l'évolution de cette articulation, parce que c'est toujours pareil, on parle sur un temps très long. Il ne faut jamais écraser toutes ces questions-là, c'est-à-dire que le rapport Piémont-Montagne n'est pas le même à l'âge du bronze, à la fin de l'âge du fer, pendant l'époque romaine, pendant le haut Moyen-Âge, et puis jusqu'à nos jours. Et à l'intérieur de ça, on va pouvoir aussi travailler sur des thématiques spécifiques. Juste une chose à préciser, l'avantage de ce travail généraliste, c'est de pouvoir aussi, contrairement à mes collègues spécialistes, être en capacité de travailler sur plusieurs types de sites. Parce qu'une commune, vous ne pouvez pas lui dire, d'une certaine manière, où c'est très décevant. Moi, je suis archéologue, mais je travaille que sur les églises. C'est dommage, vous avez un très bel habitat romain. Moi, je ne touche pas, parce que ce n'est pas ma spécialité. D'une certaine manière, vous pouvez le faire. Mais ça limite fortement le travail. Alors que là, l'idée, c'est d'englober des grandes thématiques pour pouvoir travailler. Alors, il y a certains domaines qu'on peut ne pas traiter, parce que c'est une autre archéologie, notamment la préhistoire, parce que ça, c'est un truc qui est un peu spécifique, on va dire. Mais par contre, ouais, travailler sur le temps long, et ça permet d'aborder, pour faire simple, il y a trois types de sites qu'on fouille avec les communes. C'est les églises rurales et leurs abords, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles font là, et comment est-ce qu'elles naissent, et comment est-ce qu'elles meurent, et comment est-ce qu'elles s'organisent sur le territoire. Il y a les réseaux d'habitat, c'est-à-dire où se situent les pôles de peuplement et comment ils évoluent entre les premiers groupements du néolithique et, on va dire, la stabilisation des villages à la fin du Moyen-Âge. Et puis, la question plus spécifique qu'on appelle des habitats de hauteur, proto-historiques, tardo-antiques et alto-médiévaux.
Voilà. Oui, peut-être la question, c'est justement, à la lumière de ce que vous venez de nous dire, c'est comment les collectivités arrivent à mener ces chantiers, puisque la question du coût est importante. Comment avec vous, comment c'est moins cher au final, et comment ils y parviennent?
Oui, parce que ça peut être un peu le cadeau empoisonné aussi. Si vous découvrez quelque chose de remarquable, comment ils font après pour continuer?
Alors, c'est une question qui serait un petit peu complexe. Il y a une vision qui est un peu tronquée du coût de l'archéologie. Le coût de l'archéologie, c'est, je dirais, de quelle archéologie? C'est-à-dire l'archéologie préventive, on voit souvent dans les journaux, effectivement, des coûts qui sont à des sommes à 6 chiffres, 7 chiffres, qui peuvent paraître, évidemment, pour des communes très, très problématiques. D'autant que dans nos régions, là, on parle de communes entre 100 et 300 habitants. Là, on n'est pas du tout dans ça. Je vous ai dit, on est dans de l'archéologie programmée, c'est-à-dire que ça reste de l'archéologie universitaire, c'est-à-dire qu'il y a le responsable d'opération, éventuellement un ou deux responsables de secteur, c'est-à-dire des gens qui encadrent, et ensuite des étudiants en formation. Déjà, évidemment, ça réduit le coût, mais ça ne se présente pas sous cette forme-là. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de l'archéologie privée, au sens où ce n'est pas de l'intervention à la demande. C'est des choses où on est obligé, de toute façon, nous, scientifiquement, d'englober ça dans un projet. Donc du coup, on reste dans le cadre de l'archéologie programmée. Et c'est ça, d'une certaine manière, si on raisonne, pour répondre à votre question, en termes de coût, c'est ça qui fait qu'on est sur, en fait, un coût normal d'une archéologie programmée classique. Qui permet à la commune qui le souhaite, encore une fois, c'est rien n'est imposé. Il n'y a aucun démarchage, et heureusement d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, moi je croule sous les demandes, et il manque des archéologues. Alors, on discutait tout à l'heure en amont, comment est-ce qu'on peut appeler comme ça, c'est pas des archéologues territoriaux, parce qu'au sens où on n'a pas de statut territorial, mais par exemple, il y a des pays où l'archéologie est organisée comme ça. En Suisse, vous avez des archéologues cantonaux, par exemple. qui travaillent sur une zone stricte. Après, vous avez des services, par exemple en France, il y a des services municipaux sur des grandes agglos, mais il y a aussi des services sur des zones géographiques. Vous avez le service archéologique de l'étang de Thau, par exemple, qui sont des structurations au hasard de la des rencontres humaines et des dynamiques de recherche, mais on peut imaginer aussi ce genre de choses-là. L'idée là, c'est de répondre, en fait c'est une rencontre entre la volonté des communes et le fait que moi je sois sur le territoire parce que je veux y rester. Y compris s'il n'y avait pas cette volonté-là, moi je serais en train d'aider ma femme sur l'exploitation agricole, accessoirement. Ce qui est très bien aussi.
Allez, on marque une pause Clément Venco et puis on se retrouve pour poursuivre cette discussion sur l'archéologie.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Voilà, c'est la suite de notre émission L'heure de pointe, ce magazine de fin de semaine. Nous sommes cette semaine avec un archéologue qui est notre invité, Clément Venco, et bien sûr en studio à mes côtés, Andy Barejo et Gérard Croza qui sont là comme dans chaque magazine. Alors Clément Venco, vous nous avez expliqué donc votre métier. Alors c'est dense, hein, il y a beaucoup d'informations, mais les auditeurs peuvent aussi aller se renseigner ensuite sur Internet où on trouve notamment votre profil Facebook et puis plein d'autres renseignements. Gérard Croza a une question.
Oui, c'est une question un peu connexe, mais bon, pour moi, tout ce qui est archéologie, il y a une part de mystère qui est très attirante. Hein. Vous nous avez dit que vous aviez 3 enfants. Comment ils présentent votre métier? S'ils sont à un âge où ils peuvent en parler? Ils sont petits tout encore.
Déjà, ils m'accompagnent souvent sur les sites quand on prospecte. Après, ils sont un peu jeunes pour en parler, parce que bon, ils ont 8, 7 et 6 ans. Donc, oui, c'est ça. Bah, ils disent que je suis archéologue. Et que, alors, pour eux, le truc qui ressort essentiellement, c'est que quand on va se promener en forêt, on a les yeux par terre, rivés au sol, et on ramasse des morceaux de céramique essentiellement. Donc, ils provoquent l'émerveillement même quand ils sortent dans d'autres cadres, parce que même quand on sort dans un parc, ils sont toujours en train de me ramener
des
petits morceaux de céramique ou des morceaux de verre d'ailleurs récents. Bon, bref, pour me dire, tiens, on a trouvé ça. Voilà.
Est-ce que vous, justement, il faut garder cette âme d'enfant là quand on est archéologue? Est-ce qu'il y a ce côté-là? Parce qu'il y a tout ce travail de recherche que vous dites pour arriver à cibler vraiment les endroits où il faut prospecter. Et où il peut y avoir justement des pièces, des objets patrimoniaux à mettre en lumière et à mettre au jour. Mais est-ce que aussi il y a l'enfant en fait quelque part qui, je sais pas, est-ce que c'était votre rêve d'enfant peut-être d'être archéologue ou pas?
Alors c'est un métier singulier quand même.
Donc. C'est un métier singulier. Alors moi, je vais vous décevoir un peu. J'ai eu plusieurs vies. J'ai fait un BTS dans l'imprimerie. J'ai été imprimeur pendant plusieurs années. Avant ça. Et puis j'avais des copains de collège qui étaient archéologues. Et pendant mes vacances, pendant mes congés payés, j'allais à Montpellier avec des amis qui eux étaient en train de terminer leur cursus universitaire en archéologie, qui ont commencé à avoir des chantiers. Et plusieurs fois de suite, je suis allé sur des chantiers. Et puis je vivais à Paris à l'époque. Et je me suis dit que peut-être que ça m'intéresserait un petit peu plus de faire ça. Donc j'ai pris le parti à un moment de quitter l'imprimerie ce qui était un peu risqué hein, quand même. Parce que j'étais cadre dans l'imprimerie et j'ai recommencé une licence d'archéologie. Bon.
Alors moi, j'ai une question tout autre. Hein. À chaque fois, je change de sujet. S'agissant des normes environnementales qui ont quand même considérablement évolué ces dernières années, j'imagine que ça change quelque chose dans votre travail, dans la manière de fouiller, peut-être même dans la manière de choisir le lieu où vous allez pouvoir effectuer des fouilles. Qu'est-ce que ça a changé, ça?
Alors, sur l'archéologie programmée, pas vraiment beaucoup de choses, parce qu'on reste sur des petits chantiers d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'impact, si on parle de ça, l'impact d'une fouille sur le site, alors au-delà du fait que l'archéologie est quelque chose qui détruit hein, par définition, ça va plutôt concerner l'archéologie préventive, où là, effectivement, on va être sur des chantiers qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus impactants, où là, il y a tout un tas de normes, effectivement, qui sont apparues. Après, là où ça peut avoir un impact, c'est que la prise en compte des problèmes environnementaux ça va pas forcément enfin nous ça va pas forcément rentrer en ligne de compte dans l'organisation du chantier parce que c'est très peu présent, parce que c'est encore une fois c'est des tout petits chantiers. Par contre, ça rentre en jeu maintenant dans les problématiques de recherche. C'est-à-dire notamment sur les questions d'une part de conservation de sites. Je prends cet exemple-là parce que je ne travaille pas que sur la montagne, je travaille aussi sur la Garonne avec une collègue là de Toulouse. On a un programme sur la Garonne et notamment sur les aménagements fluviaux. Et là, sans parler forcément du changement climatique, mais juste par la nature de ce type de site, eh ben, on est soumis aux crues, on est soumis à la destruction et à l'arasement de ces sites-là. Donc il y a effectivement toute une archéologie liée aux phénomènes environnementaux, quels qu'ils soient, qui est plus prise en compte aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans les thématiques, il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'archéologie du paysage, en fait, qui rentre en ligne de compte avec l'archéologie du peuplement. Mais maintenant, on met, alors là, c'est dans le titre de la thèse, ça n'apparaît pas, mais aujourd'hui, les gens qui travaillent sur les dynamiques de peuplement travaillent sur, normalement, ces dynamiques de peuplement et construction des paysages, parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait.
Une question sur les matériaux, on a un tout petit peu évoqué ça au début de l'émission, mais quels matériaux on trouve, par exemple, les objets, etc. Ce sont quels matériaux? Vous parliez de céramique, est-ce que c'est la majorité des objets que vous trouvez?
Alors oui, de toute façon, l'archéologue, il travaille, quand il intervient sur un site, il travaille donc d'abord sur les structures, quand il y en a, sur des murs, sur des éléments le plus visibles. Mais sur certaines périodes, il n'y a pas de mur en pierre, il n'y a pas de bâti visible ou sur certains types de sites. Donc là, évidemment, on va s'intéresser à tout ce qui est le matériel. Donc ce matériel archéologique, c'est les céramiques principalement, parce que c'est l'essentiel du mobilier. Mais vous avez évidemment tout le mobilier métallique qui rentre en ligne de compte. Il y a quelque chose qui est très important, ce sont les restes fauniques, c'est-à-dire les déchets de repas. Et puis après, bon, du matériel qui est un peu moins fréquent.
Les repas, vous arrivez à remonter à... Ça se désagrège pas, enfin.
Les os ne se s'altèrent un tout petit peu, mais les os restent.
D'accord.
Si on trouve des sépultures, on est capable de trouver aussi les restes de repas, du coup. Parce que si les os ont quand même une durée de vie assez importante. Donc c'est l'essentiel, c'est surtout la céramique. Ce qu'on appelle, en fait, c'est les restes de la vie quotidienne, en fait. Hein. C'est des choses simples. Alors ce que je dis toujours, c'est que la chance qu'on a, c'est que les civaumes n'existent pas encore. Donc les déchets ne sont pas évacués des sites. Donc on jette les poubelles en partie sur le site. Heureusement, parce que c'est par ces éléments-là qu'on arrive effectivement à donner, c'est ça qui nous donne les trois quarts du temps, des éléments à la fois de datation et puis de caractérisation des sites. Est-ce qu'on est sur de l'habitat? Est-ce qu'on est sur autre chose? Est-ce qu'on est sur de l'artisanat? Est-ce qu'on est sur...
Est-ce que malgré tout le travail qui est fait en amont, justement pour caractériser les sites avant de les fouiller, il vous arrive d'être surpris?
Alors oui, des fois, il y a des grosses surprises. Parce que le principe de la prospection, si vous voulez, vous allez sur un territoire. Alors soit c'est dans les labours, quand les terrains sont retournés. Là, vous avez de la céramique un peu en surface, donc ça vous donne une petite idée. Et puis, moi, je travaille beaucoup ici. Les montagnes sont faites de forêts, hein, quand même, en très grande part, et de prairies, même en pleine. Donc du coup, là, c'est plus compliqué. Mais la forêt, l'avantage, c'est qu'elle conserve plus qu'elle ne détruit. Et quand vous soulevez les feuilles, juste en soulevant les feuilles, vous avez aussi beaucoup de mobilier qui sort. La prospection, ça va vous permettre d'avoir une idée du site. Une petite idée de la chronologie et, a priori, avec un peu d'expérience, une petite idée de la fonction, vaguement. Par contre, quand vous engagez une fouille, des fois, vous avez ce que vous voyez, c'est la tête émergée de l'iceberg. Et puis, dessous, il y a des choses qui sont un peu inattendues. Je vous donne juste un exemple qui est assez récent. J'ai fait une fouille sur la commune de Chaume, donc c'est en Haute-Garonne, on est entre Saint-Bertrand et Saint-Béat. Et donc c'était sur le haut d'un plateau, c'était une chapelle moderne, mais on avait une mention de cette même église sous un autre nom au XIIe siècle. Donc, on a pris le parti de faire une opération pour essayer de dater le site de l'église, du coup, donc de la chapelle, et avant très certainement de l'église médiévale qui avait le statut de paroisse. Et puis lors de la fouille, on a trouvé ce qui était apparent, plusieurs. Alors là où il y avait une église moderne, on a montré qu'il y en avait deux, donc une qui avait été détruite puis reconstruite. Et puis l'église médiévale est arrivée avec son cimetière, et puis une nécropole du très haut Moyen-Âge, de la fin de l'époque mérovingienne et du début de l'époque carolingienne. Et puis dessous, les restes d'un bâtiment lié au travail du fer à la fin de l'époque antique, donc qui, lui, pour le coup, n'a rien à voir avec, avec le devenir ensuite et l'établissement de ce premier édifice chrétien. Et puis encore en dessous, alors là, ça, c'est le hasard, des bâtiments du début du premier âge du fer, et avec notamment une sépulture, enfin une urne funéraire. Bon,
voilà. Mais ça, vous pouvez le trouver s'il n'y a rien de construit dessus. Enfin, c'est recouvert de poussière, de terre, de sable, je ne sais pas. Ou c'est par étapes, mais...
C'est ce qu'on appelle, alors c'est quand on fouille, on étudie la stratigraphie, pour employer un terme technique, c'est-à-dire les différentes couches, les successions de couches. L'avantage, c'est que notamment sur des territoires de montagne, il y a peu d'apports de sédiments, mais il y a aussi peu de disparition de sédiments. Donc si vous voulez, chaque couche vient recouvrir l'autre. Alors des fois, il y a des couches qui sont un peu attaquées par les activités postérieures. Mais en gros, vous avez une sorte de sandwich avec, pour faire simple, si vous regardez sur Internet, vous tapez coupe stratigraphique, vous allez voir en fait une succession de couches avec l'histoire qui se situe sur 10 cm. Hein. Vous avez 10 cm, puis 10 cm au-dessus, vous êtes sur une autre période, et puis 10 au-dessus, bon là, je schématise un peu, mais...
Mais c'est quand même incroyable de se dire que sur 10 cm, on a toute une ère.
Alors, c'est surprenant, si vous étiez chez les préhistoriens, c'est à l'échelle du centimètre, voire du demi-centimètre, hein, qu'on change, qu'on change même là, et on fait des bonds, non pas au siècle, mais des fois des bonds encore plus importants.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais qu'on termine en parlant du public. Quelle est la règle là quand on découvre un site qui est remarquable ou en tous les cas qui a un intérêt pour l'histoire, pour la culture d'un lieu? Il y a le souci de transmettre, d'expliquer, de transmettre, mais il y a aussi le souci de préserver. Est-ce que c'est une bonne chose que le public vienne sur ces sites? Comment vous situez-vous par rapport à ça?
Alors, c'est une question qui est très importante, d'autant que dans le cadre de l'archéologie qu'on fait sur ce territoire, elle est d'abord, elle a d'abord pour objectif non pas la recherche scientifique, même si c'est le moyen nécessaire, mais le fait de porter à connaissance. Du tout, c'est on étudie et les communes y compris financent du coup de la recherche fondamentale pour conserver et valoriser surtout, c'est-à-dire pour connaître. Donc dans ce cadre-là, moi je pense que c'est très important effectivement d'avoir un travail de médiation, ce qu'on appelle de la médiation scientifique, c'est-à-dire que comme nous on part d'une volonté d'une commune, de connaître son patrimoine. Déjà, une partie du chemin est fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu sur qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine-là. Déjà, il y a un enjeu de connaissance. Après, souvent, c'est sur du communal. Je tiens à préciser que c'est ça qui est important aussi. C'est que des fois, quand c'est pas sur des parcelles communales, la commune fait l'effort de racheter la parcelle, ce qui permet... Alors bon, on est sur des zones où ça vaut pas grand-chose. Hein. C'est des bois, c'est des taillis, c'est des trucs comme ça. Mais ça permet aussi de rapatrier dans le domaine public ce patrimoine.
De le sanctuariser quelque part.
De le sanctuariser, de le protéger, alors de le conserver quand c'est du bâti, de faire de la stabilisation. Mmh. Et le fait de porter à connaissance, ça permet de réapproprier ce patrimoine par les habitants. Et ça, de mon point de vue, c'est une des meilleures formes de protection. Parce que vous le portez à connaissance, vous savez ce que c'est, et du coup, il y a une protection aussi par la pratique, d'une certaine manière. Je précise qu'on fait aussi de la formation, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui viennent sur ces sites pour apprendre le métier. Mais il y a aussi, on a tout un tas de programmes avec les écoles, les collèges et les lycées, qui viennent visiter, alors soit sur le chantier, soit postérieurement faire des ateliers, sur le métier de l'archéologie, sur la sensibilisation au patrimoine. Ça permet aussi de renforcer le lien ou de retisser le lien entre la DRAC et les collectivités territoriales pour leur montrer qu'il y a un lien par des médiations. Ça permet de faire de la veille. Parce que du coup, par ce biais-là, maintenant, les communes, quand elles ont des découvertes fortuites, vous savez, des fois, vous creusez un caniveau, un réseau, machin. Déjà, il y a une sensibilisation visuelle, c'est-à-dire ils savent ce que c'est un vestige archéologique. Donc moi, maintenant, je reçois des coups de fil disant, mais voilà, attention, là, on a trouvé des trucs, est-ce que tu peux venir voir ?
Donc, les élus locaux sont de plus en plus avertis.
Ça permet aussi de signaler ces découvertes à la DRAC, de compléter un élément qui est essentiel pour la DRAC, le service régional de l'archéologie, c'est ce qu'on appelle la carte archéologique, c'est-à-dire c'est ce qui permet en plus après de prescrire, et de prescrire bien, c'est-à-dire est-ce qu'on a des sites, sur quelle densité, quelle est la nature ? Or, ce travail-là, les agents de la DRAC n'ont pas non plus les moyens physiques de le faire sur le terrain. Et ensuite, j'ai oublié de préciser, c'est très important, ces projets-là, ils sont pris en main ensuite par les communes et les intercos, les communautés de communes, pardon, dans le cadre de la mise en valeur. C'est-à-dire que les offices de tourisme sont très intéressés, parce que comme on est sur des projets, vous avez une commune, puis une autre à côté, puis une autre à côté. Moi, je fais entre 4 et 5 opérations par an, ce qui est énorme hein, pour un archéologue. En général, les archéologues, ils ont 2 chantiers par an. Alors moi, c'est des petits, mais du coup, ça en fait beaucoup. Ça fait en fait un réseau en toile d'araignée, parce que toutes les communes quasiment aujourd'hui se touchent. Donc il y a des sentiers, des créations de sentiers, des créations de randonnées archéologiques, des sentiers de VTT qui sont en cours de création. Ça permet aussi aux communautés de communes de travailler entre elles, ce qui n'est pas toujours le cas, aux offices de tourisme de proposer une offre. Alors c'est du tourisme doux, ce qu'on dit toujours aux communes, le but du jeu, c'est pas de faire venir des bus de touristes sur ces sites-là. C'est avant tout destiné aux habitants du territoire, mais et aux enfants et au public de passage. Mais ça permet de tisser tout ce réseau-là. Et en fait, il est en voie de construction aujourd'hui, notamment alors côté Haute-Garonne et un peu Haute-Pyrénées, il y a un parc naturel qui est en cours de constitution, il y a le parc naturel Comminges-Barousse-Pyrénées. Typiquement, là, c'est eux qui prennent en charge la valorisation des sites. Alors, la mise de panneaux, il y a des circuits qui sont créés, il y a des outils de mise en valeur. Là, c'est en train d'être fait. Hein. Alors, c'est un peu jeune, parce qu'on a commencé en 2020. Il y a d'abord la fouille, il y a d'abord les dossiers, ensuite la fouille, ensuite... Donc là, on arrive au début de la mise en valeur. Et puis, sur tout, c'est très facile de le multiplier. C'est-à-dire que bah, vous avez ce réseau-là, et puis si vous rajoutez un site ou une autre commune, bah, vous venez le coller au réseau, vous faites un peu comme une ligne de métro, vous ajoutez une station, et puis vous pouvez largement imaginer que ça se développe.
Merci beaucoup Clément Vinco, vous écouterez pendant des heures, c'est vraiment très intéressant. Merci de nous avoir aidé à comprendre comment l'archéologie dans notre monde rural est un maillon important de cette chaîne là que vous décrivez. Je rappelle Clément Vinco que vous êtes donc archéologue et membre du laboratoire Traces, travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés. C'est un laboratoire qui dépend de l'université Toulouse 2. Jean Jaurès.
Juste un dernier mot, si vous voulez suivre un petit peu l'actualité des recherches, alors j'ai pas de page Facebook moi-même parce que je suis pas un aficionados des réseaux sociaux, mais le groupe de recherche avec qui on travaille a une page Facebook qui s'appelle Archéologie des Pyrénées Centrales. Et vous y retrouverez toute l'actualité un peu des fouilles menées notamment avec les communes, les conférences. J'ai oublié de préciser qu'on fait des conférences aussi à la fin de chaque fouille, qui marche très bien, qui regroupe beaucoup de monde. Voilà, donc vous avez toute l'actualité un petit peu de ces recherches-là, sachant que bon, là, on est un peu à la période morte, parce que c'est la période des rapports, mais voilà.
Voilà, après la période des rapports, rendez-vous dans les conférences pour tout comprendre de ce travail que vous effectuez. Merci beaucoup Clément Vinco, merci aussi à vous Gérard Croza et Andy Barégeau.